D'abord, je n'ai jamais séduit personne, mais j'ai été énormément séduit. Personne n'a été aussi enlevé que moi depuis la guerre de Troie. Et je me suis laissé enlever. Et évidemment, vantons-nous un peu, peut-être que j'ai plu à certaines femmes, mais j'ai plu aussi à certains hommes, certainement.
Être enlevé, une jolie définition de la séduction. Personne n'a été aussi enlevé que moi depuis la guerre de Troie. Jean d'Ormesson, dont le premier texte publié s'appelait quand même « L'amour est un plaisir ». Il était alors reçu l'an passé dans l'émission « Pardonnez-moi », une émission de la radio-télévision suisse, à l'occasion de la parution d'un autre de ses ouvrages « Je dirais malgré tout que cette vie fut belle ». Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le règne de la séduction avec le philosophe Gilles Lipovetsky, essayiste et membre du conseil d'analyse de la société. Après l'ère du vide, essai sur l'individualisme contemporain, après l'empire de l'éphémère, après bonheur paradoxal, essai sur la société d'hyperconsommation, il s'intéresse aujourd'hui aux nouvelles manifestations du désir et des affects dans un essai sur la société de séduction intitulé « Plaire et toucher » paru chez Gallimard. Si la séduction est un invariable, quelle rupture va constituer l'avènement de l'hypermodernité? Comment les stratégies de séduction se sont-elles dilatées dans l'espace social au point de structurer autant les rapports politiques, économiques que culturels? Un territoire infini pour une séduction illimitée, faut-il l'encourager ou l'en dissuader? On en parle ensemble avec vous, Gilles Lipovetsky, bonjour.
Bonjour.
Vous définissez la séduction comme un état émotionnel, une expérience première et universelle. Mais si on reprend la définition qu'en donnait de manière assez courte Jean d'Ormesson, et si on reprend aussi le titre de votre livre, « Plaire et toucher », dans quel sens ça marche? Quel enchaînement des contraires? C'est plaire, toucher, séduire? Quelle différence?
Dans ce que vient de dire Jean d'Ormesson, il y a quelque chose d'extrêmement important. Quand il dit que s'il a pu séduire, il a surtout été séduit. En effet, on a beaucoup, depuis Platon au moins, une grande réflexion sur le séducteur ou la séductrice. Mais on a laissé de côté l'autre moitié du phénomène. À savoir, la séduction, c'est aussi être séduit. Et dans ce que vient de dire Jean d'Ormesson, c'est ça qu'il souligne. La séduction, en ce sens, c'est quelque chose d'extrêmement profond qui accompagne l'existence. L'existence ne peut pas se concevoir sans cette expérience émotionnelle d'être touché, d'être séduit par quelque chose. Sans cette expérience première, la vie n'existe pas. Dans la vie de l'enfant, il y a déjà cela. Et cette expérience est la condition du désir. Vous désirez des choses parce que vous avez été séduit par ces choses. Jean d'Ormesson en est une figure. Il a été séduit par la littérature, mais il en a fait quelque chose, son œuvre à lui. Et c'est ça qui est absolument consubstantiel à l'existence humaine. Elle nous propulse. Sans séduction, la vie s'éteint. On est véritablement vieux, non pas lorsqu'on a des années en plus, mais lorsqu'on n'a plus la capacité d'être séduit. Jean d'Ormesson, jusqu'à la fin de sa vie, a été cet être qui, effectivement, avait un charme incroyable par le langage, mais qui a été aussi profondément séduit. Et il montre bien là cette double face de la séduction.
Avec le sourire, cette idée d'être enlevé par une émotion, par un sentiment, par un autre peut-être aussi.
Alors,
c'est
justement, avec le sourire, vous soulignez un point très important, parce que ça n'a pas toujours existé. Dans les sociétés anciennes, j'ai essayé de faire un petit peu de revenir sur cet aspect anthropologique de la séduction, mais on peut dire qu'à partir de l'âge classique, depuis le XVIIe siècle, la séduction a été assimilée à la galanterie. La galanterie, c'est l'art de bien parler aux dames. C'est l'art du langage. Et de dire des choses plaisantes, qui ne froissent pas, qui ne blessent pas, qui n'agressent pas. Et dans une période où aujourd'hui on confond tout, séduction, agression, harcèlement, il faut revenir à cette définition de la séduction classique. La séduction classique, elle donne du plaisir. Elle s'accompagne d'une légèreté plaisante, qui n'agresse pas, et donc qui sourit à la vie et qui sourit à l'autre.
C'est peut-être pas pour rien que l'écrivain Pierre Pachet, décédé lui aussi, critique littéraire, traducteur, évoquait la séduction, en tout cas la comparait à une forme de divertissement. Écoutez.
Je crois que la séduction, c'est comme le divertissement. Ça consiste à détourner d'un chemin droit. C'est donc agir sur autrui par des moyens. Alors on pense surtout à la séduction sexuelle, par la beauté, le maquillage, ce qui est cosmétique, l'apparence, bon, toutes sortes d'autres moyens, la voix même, la voix est séduisante ou séductrice, la parole. Je crois que c'est ça, le terme même de séduction a déjà dans sa forme une valeur négative. Donc moi je suis tout à fait d'accord pour vous suivre et essayer de rechercher en quoi... Elle est une attitude, quelque chose qui peut faire du bien, oui.
Oui, nous aussi, on est d'accord pour vous suivre, Gilles Lipovetsky, à comprendre pourquoi la séduction a si longtemps eu mauvaise réputation, pourquoi aujourd'hui il faudrait peut-être la réhabiliter, pas entièrement, mais en partie, comme ce que vous décrivez, c'est-à-dire une condition du désir et de l'action, comme une force créatrice, comme une puissance motrice. C'est aussi ça que la séduction peut être. À vous lire, rien n'a changé quand même depuis Racine. La principale règle est de plaire et de toucher. Toutes les autres ne sont faites que pour parvenir à cette première. Ça, ce sont des mots de Racine dont vous avez extrait le titre de votre essai « Plaire et toucher », essai sur la société de séduction. Si la séduction est consubstantielle au vivant, en quoi est-elle malgré tout un trait d'époque, Gilles Lipovetsky ?
La phrase que vous rappelez, l'extraordinaire phrase de Racine, extrait de la préface à Bérénice, date de 1670, et Racine dégage la loi qui devrait présider à ses yeux au théâtre. Et il a, d'une certaine manière, anticipé ce qui allait se généraliser dans notre monde. Plaire et toucher, c'est la loi principale. Toutes les autres sont là pour y parvenir. Eh bien, ce que dit Racine au sujet du théâtre est devenu la loi du monde. Prenez les grandes sphères de notre vie. Aujourd'hui, entre les êtres, mais aussi l'économie, le capitalisme de consommation, la vie politique, marquée par le marketing, l'éducation, dominée par de plus en plus la volonté de plaire aux enfants, et non pas d'imposer. C'est l'ensemble, d'une certaine manière, de notre culture, qui obéit à la loi du plaire et toucher. C'est la première fois. Dans les sociétés anciennes, il y a toujours eu des poches, des rituels, des scénarios de séduction. Mais d'abord, elles étaient très rituelles, très traditionnelles, et puis l'essentiel était dominé par la religion, la tradition. Les phénomènes de séduction, c'était des espaces-temps limités. Aujourd'hui, on est dans une séduction tentaculaire, omniprésente. Exemple, vous allez dans les villes, les vitrines, les stimulations marchandes sont partout. On ne produit plus des objets utilitaires, on produit des objets utilitaires et en même temps qui vous touches, qui vous plaisent, par le design, par l'apparence.
Stimulation des affects, stimulation des désirs, le règne de la séduction, Gilles Lipovetsky, dans l'ère du vide, déjà en 83, vous analysiez le déclin des grandes institutions collectives, avec la communication et la consommation de masse, on serait entré dans cette deuxième révolution individualiste. Alors la séduction dans tout ça, est-ce qu'elle a contribué à ruiner pour vous ces anciens cadres collectif, ou est-ce qu'elle s'y est simplement substituée? Est-ce qu'elle a simplement rempli un vide?
Non, je crois que c'est, vous l'avez parfaitement résumé. Encore une fois, où l'on voit que la séduction n'est pas simplement un théâtre. Elle est une machine qui produit. Elle produit chez les êtres humains du désir. D'ailleurs, chez les animaux, c'est la même chose. Mais surtout, elle a produit un autre monde économique, un autre monde politique, et qui a brisé les encadrements traditionnels. C'est la société de séduction. Et la société de séduction, c'est la société de consommation. Il n'y a pas de consumérisme sans une immense machinerie de séduction. Et la séduction, qu'est-ce qu'elle a eu comme effet? Elle a déplacé le centre de gravité de la vie du public vers le privé. Désormais, depuis un demi-siècle, le centre de nos vies a basculé du côté de la recherche du bonheur, des sensations, des évasions, le tourisme, les loisirs, la consommation. Et tout cela a privatisé l'existence. Là où autrefois les traditions encadraient les existences, les gens obéissaient à des règles qu'ils aimaient ou qu'ils aimaient pas, mais de toute façon qui étaient imposées à eux. Mais la société de séduction, elle a permis l'éclosion d'un nouveau type d'individualisme, recentré sur soi. Chacun recherche son propre bien-être, exige l'autonomie, parce que c'est à chacun de vivre comme il l'entend. Et bien entendu, c'est pas seulement la société de séduction qui a produit ça. C'est une longue aventure depuis le XVIIIe siècle, les droits de l'homme, la reconnaissance de la liberté, de l'égalité des êtres. Mais la société de séduction, depuis 1950, en gros, elle est passée à une vitesse supérieure en ce qui concerne l'éclatement des encadrements collectifs.
Mais au point de prendre le pas sur la morale pour devenir vraiment un principe fondateur ou de fonctionnement de nos sociétés libérales?
Alors, ça, c'est la vision, en effet, critique ou négative qu'on peut avoir, en disant, du coup, la société de séduction, elle nous a transformés en êtres nihilistes, relativistes, on croit plus à rien, on croit qu'à ce qui nous plaît, ce qu'on aime, et puis, du coup, il n'y a plus de valeur morale.
C'est pas votre vision des choses.
Non, je ne partage pas ça.
Pourquoi?
Tout simplement parce que je l'observe. Je me méfie beaucoup des systèmes qui, à partir d'une idée, veulent tout déduire. Il y a une théorisation qui doit prendre en compte le réel. Alors le réel, c'est quoi? Le réel, c'est que l'indignation morale n'est nullement caduque. Lorsque vous écoutez la radio et que vous entendez qu'il y a eu des viols, qu'il y a eu des femmes battues, qu'il y a de la misère dans le monde, vous les connaissez pas, ces gens-là. Et néanmoins, ça vous révolte. Vous avez des réactions. Et regardez le cas du bénévolat. Il y a 13 millions de Français qui sont bénévoles. La société n'a jamais été autant individualiste et il n'y a jamais eu autant de bénévoles. Il y a le plaisir d'aider autrui. Parce que ça, le centre commercial ne vous le donne pas, cette satisfaction-là. Ce à quoi nous assistons, c'est pas à l'effondrement, à la ruine de la morale, mais à l'individualisation de la morale. Les gens ne traduisent pas les valeurs morales de la même manière. Mais ça signifie pas le nihilisme, ça signifie pas le degré zéro des valeurs. La séduction a un énorme pouvoir dans les modes de vie, dans le rapport que nous avons avec nous-mêmes, avec le corps, avec les autres. Mais heureusement, ce pouvoir ne va pas jusqu'à abolir les référentiels moraux.
Cette esthétique du plaisir et de la sensibilité, ce règne de la séduction n'aurait donc pas tué ni la morale ni la raison pour vous dans nos sociétés libérales. Des premiers apparats à son hégémonie de la séduction érotique à la société de séduction, vous retracez dans cet essai, Gilles Lipovetsky, l'histoire de cette passion et vous montrez comment les mécanismes de séduction structurent aujourd'hui l'ordre social. Vous avez évoqué ce mot « pouvoir » à vous lire. On aurait tendance à penser qu'il n'y a pas de pouvoir qui s'exerce sans séduction. Que c'est une forme même inhérente au pouvoir, au même titre peut-être que la conviction, cette dilatation sociale des stratégies de séduction, comme vous l'écrivez, comment a-t-elle gagné toutes les sphères et surtout comment a-t-elle gagné la sphère politique?
Alors, l'hypothèse du livre que j'avance, c'est que la séduction, c'est un invariant. Toutes les sociétés humaines ont aménagé, inventé, créé des codes de séduction, des rituels de séduction, qui avaient pour charge, et qui ont toujours pour charge, d'augmenter le pouvoir de séduction. La séduction, c'est pas simplement un théâtre. C'est ce qui doit agir, qui doit amplifier le pouvoir de séduction. Les danses, les chants, les maquillages, les habits, tout ça, c'est fait pour créer un désir plus, un supplément de plaisir.
Donc on pourrait dire qu'une campagne électorale, c'est un rituel de séduction ?
En partie. En tout cas, beaucoup des citoyens maintenant le voient comme tel. Et c'est la raison aussi de cet échec. Parce que le propre de la séduction politique, c'est que, à la différence de la séduction du capitalisme, elle ne marche pas très bien. Le capitalisme de consommation marche très bien. Les gens achètent des smartphones, ils partent en vacances, ils aiment le tourisme. En revanche, le résultat final de la séduction politique, c'est quoi ? C'est la défiance généralisée des citoyens. C'est-à-dire que les citoyens ne croient plus dans les politiques. Et donc, il y a une séduction malheureuse caractéristique de la politique contemporaine, alors que dans le domaine économique, la séduction est triomphante. Donc, c'est un énorme écart. Mais c'est vrai que la vie politique aujourd'hui ne se sépare plus de l'image des promesses. Mais les promesses, c'était comme autrefois les séducteurs. Ils promettaient le mariage pour avoir des relations sexuelles. Et puis après, c'était tout. Donc, c'est des fausses promesses, si vous voulez, évidemment. Et on accuse ça, on accuse les hommes politiques de cette séduction finalement trompeuse. Mais c'est qu'un aspect de la séduction.
Mais c'est quand même un des aspects importants de la séduction aujourd'hui. Parce que dans l'idée de séduction, il y a l'idée d'artifice, il y a l'idée de manipulation, des désirs d'autrui aussi.
Il y a, dans la séduction, toute une dimension, vous avez employé le mot, une esthétique. Est-ce que l'esthétique de la séduction, c'est une tromperie ? J'ai aussi quelques réserves à faire là-dessus. Parce que le modèle, si vous voulez, c'est depuis toujours la femme qui se maquille, ou bien plus récemment la publicité. Hein ? Mais dans les deux cas, je pense que ce n'est pas de la tromperie. Ça, c'est un modèle platonicien, c'est un modèle moral, si vous voulez. Mais la femme qui se maquille, en quoi trompe-t-elle ? L'homme politique trompe quand il dit une promesse qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas tenir. La femme qui se maquille, elle se montre maquillée. Elle ne trompe pas. C'est différent de Don Juan. Don Juan, il raconte des cracks pour conquérir Charlotte. Mais lui, il trompe, en effet. Il y a cette dimension négative. Mais tout artifice n'est pas trompeur. Et la publicité elle-même n'est pas trompeuse. Il y a de la publicité trompeuse. Mais le fait de magnifier, de célébrer un produit, c'est consubstantiel. C'est la définition même de la séduction. Autrement dit, lorsque vous regardez un spot, vous savez que c'est de la publicité. Autrement dit, d'un message de séduction. Et en ce sens-là, ça n'abuse pas les gens. Sinon, si ça les abuse, c'est ce qu'on appelle la publicité mensongère. Et celle-là, elle est condamnée par la loi.
Afficher la couleur, vous l'évoquez quand même aussi, on peut prendre cet exemple que vous venez de donner, d'une femme qui se maquille ou d'une publicité qui afficherait clairement la couleur. Vous dites qu'on est quand même dans une société où se produit une sorte d'hypertrophie du moi. Aimez-moi, regardez-moi pour plaire, mais aussi pour se plaire à nous-mêmes. Vous appelez ça le design de soi hyperbolique. Qu'est-ce que ça vient pallier, ce narcissisme croissant de nos sociétés, pour vous, Gilles Lipovetsky ?
Ça vient surtout en réponse à une société dans laquelle les unions sont désormais libres. Autrement dit, sous la coupe de la séduction. C'est absolument nouveau. Depuis toujours, sauf dans les sociétés modernes, les pratiques de séduction ont été freinées, barrées, muselées, jugulées par les règles matrimoniales. Quand même, c'était l'essentiel. Les relations matrimoniales ne relevaient pas de la séduction, puisque vous étiez marié par les parents, par le clan. Autrement dit, les sociétés humaines ont joué ont fonctionné sur ces deux logiques. D'un côté, elles intensifient la séduction, de l'autre côté, elles l'ont barrée. Et nous, non. Et de ce fait, la séduction est devenue l'élément central. Vous vous mariez ou vous vivez avec quelqu'un parce qu'il vous séduit. Et on dit qu'on s'aime, oui, mais l'amour, lui, l'amour est un sentiment qui ne se sépare pas de la séduction. Quand vous aimez quelqu'un, c'est que vous êtes séduit par la personne, d'une manière ou d'une autre. Pas forcément par ses appâts sexuels, mais pour de nombreuses raisons. Donc, nous sommes dans une société dans laquelle, que j'ai appelée d'ailleurs de société de séduction souveraine. Jusqu'alors, la séduction était maîtrisée, bloquée par tout ensemble de règles matrimoniales, la religion, etc. Aujourd'hui, il ne reste que la séduction, d'où ce que vous évoquez, en effet, l'escalade dans le fait de se mettre en valeur. Parce que aujourd'hui, c'est essentiel. Si vous savez que vous êtes marié à 15 ans, quel que soit ce que vous êtes, parce que c'est une question d'arrangement, la séduction, elle est forcément d'importance très limitée. Quand au contraire, votre vie dépend de ce que vous êtes, de la manière dont vous apparaissez, alors les gens se mettent évidemment en recherche pour se mettre en valeur, à s'arranger, changer leur visage, changer leur corps, etc. Donc du coup, la séduction a pris une importance croissante. Toute l'histoire de la séduction, c'est quand même une immense histoire d'un règne grandissant, envahissant. Il a toujours existé, simplement il était extrêmement limité. Et aujourd'hui, il explose, et c'est pas un hasard que justement il y a toutes ces pratiques du corps.
Voilà, la séduction qui serait aussi l'une des qualités, l'un des attributs de nos sociétés libérales pas qu'au sens économique, mais aussi au sens philosophique anglo-saxon du terme. La définition de Jean Baudrillard de la séduction, il a écrit ce livre publié aux éditions Galilée déjà en 79. Qu'est-ce qui a changé depuis? Écoutons-le.
La séduction pour moi était plus cette forme réversible où l'un et l'autre sexe, disons anatomique, enfin physiologique et tout, jouait son identité au contraire. C'était la mise en jeu. Hein. Et à ce moment-là, beaucoup plus une forme du devenir masculin du féminin, du devenir féminin du masculin. Parce que là, quand même, il y avait un préjugé qui n'a d'ailleurs pas été fort bien compris par les féministes, je dois le dire, mais un préjugé féminin. C'est-à-dire que le masculin, lui, c'était l'identité sexuelle. Le féminin était ce qui transversalisait ça et qui, en quelque sorte, abolissait l'identité sexuelle, etc. Alors, à partir de là, ça se joue autrement, parce que ça se joue plus en termes de libération sexuelle. Tout ça me semblait finalement assez naïf. Ça reposait sur la valeur sexe, hein, la valeur sexuelle, l'identité sexuelle, etc. Alors que la séduction me semblait plus un jeu plus, comment dire, plus fatal, plus risqué, où chacun mettait en cause son identité sexuelle, où chacun joue sa propre perte. Y compris, non, mais c'est pas forcément du tout exclusif du plaisir, au contraire, bien entendu. Mais c'est un autre chose que la jouissance à ce moment-là. C'est un défi, la séduction est un défi, c'est une forme, hein, qui toujours tend à dérégler, à sortir quelqu'un de son identité, du sens qu'il peut prendre pour lui-même, et où il retrouve cette possibilité d'une altérité radicale.
La séduction identitaire de Jean Baudrillard, Gilles Lipovetsky, en 79, vous êtes d'accord?
J'ai bien connu Jean Baudrillard, on était proches, mais je ne suis pas d'accord sur son analyse, non. Je pense au contraire, toutes les sociétés humaines ont aménagé des codes profondément sexués de la séduction. Les manières de faire, de plaire des hommes ne sont pas celles des femmes. Et c'est extrêmement ritualisé, tout cela. Ce que dit Jean Baudrillard, à la limite, peut se valoir à partir d'un certain moment dans l'histoire, en particulier pour la coquette, la femme qui dit oui et non, donc on ne sait pas exactement, et c'est une manière d'attiser le désir, c'est tout à fait exact, mais ça représente rien dans l'histoire de l'humanité. Les pratiques de séduction, ça accompagne Homo sapiens depuis plus de 40 000 ans. Où il y a des rituels extrêmement précis, de tatouages, de vêtir, il n'y a pas d'indétermination. Et surtout, l'idée que la séduction, c'est ce qui est du côté du féminin, et tandis que l'homme serait du côté de la production, ça me paraît une contre-vérité manifeste. Pendant des millénaires, c'est les hommes qui ont le monopole des grands rituels de séduction. Et d'une autre manière, opposer séduction et production me paraît une contre-vérité, parce que toute séduction produit, ne serait-ce qu'elle produit l'accouplement, qu'elle produit du désir. Et c'est une vision très, je dirais, mondaine que d'opposer séduction et production.
Mais vous évoquez les manières de séduire, les rituels de séduction. Mais devant ce principe de séduction, est-ce que là, les hommes et les femmes sont égaux pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que l'avènement de la troisième femme que vous avez diagnostiquée en 97 dans un essai consacré à la permanence et aux révolutions du féminin, est-ce qu'aujourd'hui les femmes se sentent tout aussi autorisées que les hommes à séduire, tout aussi libres que les hommes de plaire, plus qu'auparavant en tout cas?
Alors, la question est très intéressante parce que, en effet, on aurait pu penser qu'avec la dynamique égalitaire, bon, après tout, on serait tous maintenant à égalité, les hommes, les femmes peuvent séduire comme ils veulent, etc. Je crois que c'est plus compliqué. En réalité, les codes ancestraux, tous les codes ancestraux n'ont pas été liquidés. Les femmes, pour reprendre votre expression, se sont en droit, évidemment, de plaire, mais c'est... Comme par hasard, c'est toujours dans la grande continuité de la beauté, du paraître, maquillage, vêtements, coiffure, bijoux, etc. etc. Et les hommes ont toujours ce rôle d'avoir l'initiative. Alors, j'entends bien, c'est que les femmes aujourd'hui peuvent prendre l'initiative, mais d'abord elles ne le souhaitent pas. Tous les sondages le montrent. Elles préfèrent que les hommes est l'initiative, et lorsqu'elles le font, c'est vraiment le bonhomme, il est vraiment timide et que vraiment il se déclare pas. Mais elles ne le font pas avec des étrangers, par exemple, avec des gens qu'elles ne connaissent pas, ce que font les hommes. Et donc, c'est extrêmement intéressant de voir que la séduction est un code de comportement qui résiste à la dynamique égalitaire. Est-ce qu'il y a quelque chose de très profond dans la vie qui résiste à ça? Parce que dans le monde animal, vous avez une division très nette. Les pratiques ne sont pas les mêmes. Dans aucune espèce, vous avez les mêmes pratiques de séduction. Eh bien, l'humanité n'est pas du tout animale sur ce plan, mais quand même, il y a le fait que anthropologiquement, on ne connaît aucune société où les codes de séduction sont similaires. Et probablement, l'égalité, la dynamique démocratique, et n'a pas le pouvoir de balayer cette permanence anthropologique.
Auteur de Plaire et toucher chez Gallimard, le philosophe Gilles Lipovetsky qui est avec nous quelques minutes encore jusqu'à 13h30. Et est-ce qu'elle va résister, cette séduction, aux différentes affaires de harcèlement qui ont vu le jour depuis plus d'un mois? Ces affaires vont-elles porter un coup d'arrêt à cet appel au plaisir permanent? Je vous propose, pour ouvrir la discussion, d'écouter les mots de Claude Habib sur le rôle social de la séduction.
Dans nos sociétés, elle a un rôle. On est fiers, on est attachés à notre présent, on est attachés à notre monde. Et bien sûr, les sociétés puritaines qui veulent enlever l'érotisme de la vie sociale, qui veulent que ça ne joue pas, sont des sociétés qui nous déplaisent. Bien sûr que nous sommes fiers d'avoir fait rentrer cette dimension érotique à l'intérieur de notre vie sociale. Maintenant, je pense que cette fierté, elle doit être matinée par la compréhension de la vraie difficulté qu'il y a dans l'intention séductrice, quand quelqu'un veut me faire quelque chose. Là, il y a des raisons de se méfier au nom de la liberté.
Claude Habib, professeur de littérature, auteur de La galanterie française chez Gallimard il y a 10 ans, qui après l'affaire Weinstein faisait partie de ces voix qui s'élevaient pour dire, appeler à préserver aussi ce qui fait peut-être une partie de l'essence des relations entre hommes et femmes, cette galanterie, cette séduction naturelle, bien sûr, sans défendre des questions comme celle du harcèlement. Vous distinguez très clairement le séducteur du harceleur, mais quand même, est-ce que vous avez le sentiment que l'époque est un retour de l'ordre moral? Est-ce qu'on va tenter de chasser, de bannir cette séduction qui pollue peut-être en partie aussi les rapports entre hommes et femmes?
Je partage la position de Claude Habib. C'est un très beau livre qu'elle a écrit sur la galanterie française. Je pense les deux choses. D'un côté, en effet, il y a quelque chose qui nous vient d'outre-Atlantique, un certain puritanisme là-dessus. C'est-à-dire que les relations hommes-femmes doivent être régies par la transparence. La transparence radicale, comme par une sorte de contractualisation. Tout doit être dit à plat. Alors, la séduction, il y a un jeu là-dedans. Il y a des règles, mais il y a du jeu. Donc, évidemment, c'est une menace parce que les hommes du coup se freinent, hein, ils savent plus exactement comment se comporter. Il peut y avoir ce risque-là. Je ne pense pas que ça ira jusque-là. Il y a une telle puissance de la séduction que je ne crois pas que la culture égalitaire, la culture de la transparence ait le pouvoir d'abolir ce plaisir que donne à la fois le fait de plaire et aussi d'être courtisé, d'être dragué, d'être l'objet du désir de quelqu'un. C'est une jouissance de la vie. Et en tout cas, ce serait dommage qu'on en arrive là, mais je ne le crois pas.
Peut-être pas d'abolir, mais de réguler plutôt. Parce que vous êtes, c'est pas très clair, vous dites d'un côté, cette séduction elle est là, elle a cette force créatrice qu'on évoquait, il y a ce besoin d'enchanter et d'émouvoir qui est de plus en plus fort aujourd'hui, pour un bien et pour un mal, mais il y a quand même des moments où la séduction peut se transformer en piège dans les rapports sociaux entre les hommes et les femmes, mais pas uniquement. Vous dites, elle a aujourd'hui touché toutes les sphères, il n'y a plus de territoire vierge qui soit préservé de ces rapports de séduction. Comment arriver à un juste milieu qui fasse que nos sociétés ne soient pas simplement guidées par leurs désirs et leurs affects ?
Je partage tout à fait votre idée. C'est pour ça que j'ai avancé dans l'idée, dans le livre, que nous devons aller vers une séduction augmentée, une séduction enrichie.
Éduquée.
Oui, et notamment par l'éducation.
Et comment séduque-t-on à la séduction ?
Pas éducation à la séduction. Éducation, c'est comme on revient à la phrase de d'Ormesson au début, il a été séduit par la culture. Et je pense que les dénonciations du capitalisme, du consumérisme, etc., c'est des cailloux dans l'eau. Ça n'aura pas d'effet. La manière pour faire reculer l'emprise de la séduction consumériste, c'est d'éduquer les gens, de leur donner d'autres goûts, d'autres désirs, d'autres séductions, notamment la séduction de l'art, de la création, de l'engagement. Il y a beaucoup d'aspects qui séduisent dans la vie. Il n'y a pas que l'érotisme, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le paraître, heureusement. Mais pour cela, il faut éduquer les gens. Mais non pas en tournant le dos à la séduction, mais en ayant une séduction de plus culturelle. Et la séduction, c'est pas être rabat-joie. L'antiséduction, c'est quelque chose qui n'est pas accepté, enfin qui n'est pas bonne. C'est quelque chose qu'il faut condamner parce que la séduction nous propulse, nous fait faire des choses. Alors, elle peut nous faire devenir des consommateurs en permanence, mais elle peut aussi nous aider à et nous pousser à devenir artistes, à être écrivains, à être de multiples phases de l'existence.
Un grand merci à vous, Gilles Lipovetsky. Plaire et toucher, essai sur la société de séduction. Votre essai vient de paraître chez Gallimard. Chaque jour, quand une grande table se referme, elle se rouvre immédiatement sur franceculture.fr où vous pourrez retrouver les deux parties de nos émissions en podcast à la réécoute, mais également nous écrire. À la programmation préparation aujourd'hui, Claire Maillot et Chloé Leblond, Clémence Marie et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Bertie Bourdon et de Maxime Morin. À la réalisation, Perret Legras avec Juliette Delperroux. Très bel après-midi à tous et je vous dis à demain.